Chapitre 72. Un crachin balayait les rues vides de Carantec, le lieu de villégiature du coin, et laquait les toits d'ardoises grises. Boutiques et restaurants fermés, volets baissés, bateaux à l'agonie dans le port, la ville ressemblait à toutes les stations balnéaires hors saison, sucée jusqu'à l'os par le vampire de l'hibernation. Quand les cloches fatiguées de l'église néo-gothique sonnèrent 18 heures, il parut à Lucie qu'elles annonçaient la fin du monde. Après une courte nuit dans son 2 étoiles, elle avala un café croissant dans un bar accolé à l'établissement. Paris, les biohackers, le clan des phalanges coupées, tout cela lui semblait loin. La flic avait le sentiment de mener une autre enquête sur ces terres celtiques, de chercher un pan de vérité au rythme différent de celui de la capitale. Ici, tout ramenait au passé, avec cette tenace impression qu'un sinistre secret planait sur les lieux. Elle était l'étrangère que les gars du cru, accoudés au comptoir, lorgnaient de travers. Des gueules tavelées par le sel, des types aux mains coupées par le nylon des filets de pêche. Pile le genre d'individu que Lucie cherchait. Ces piliers de bar devaient savoir tout sur tout. Elle termina son café et s'avança vers le zinc. Les conversations cessèrent. « J'aurais besoin de renseignements sur la propriété abandonnée de la pointe, et je me suis dit qu'un café était le meilleur endroit pour ce genre de questions. J'aimerais savoir, messieurs, qui habitait là-bas et ce qui s'est passé exactement dans cette maison. » Les hommes se regardèrent de biais. L'un d'entre eux posa des pièces devant lui et sortit. Le barman se rendit à la machine à café sans répondre. Le bruit du percolateur troubla le silence. Lucie fixait Guéguen. C'était inscrit sur sa combinaison de plombier. Guéguen, père et fils, qui fixait lui-même sa tasse sans oser lever son gros nez luisant. Une cigarette roulée était calée derrière son oreille droite, sous une chevelure frisée et grisonnante qui n'était pas sans rappeler une éponge de mer. « On parle pas de ça ici, ma petite dame. Allez voir à la mairie, ou je sais pas quoi. » Il donnait l'impression de s'être adressé à sa tasse. Lucie poussa sa carte de police devant elle. « Disons que je suis un peu pressée et que je préfère parler à des gens de terrain qu'à des administratifs. » Guéguen la reluqua de haut en bas. Sans doute était-il resté dans les années 70 où les flics n'étaient que des mâles à moustache. Il termina son café, puis il cala ses mains au fond de ses poches. « Amenez-vous. Enfin, si un petit crachin vous fait pas peur. » Ils sortirent, marchèrent quelques centaines de mètres en direction du port. Le cuir de sa peau était si épais qu'il ne tremblait même pas. Pourquoi discuter dehors alors qu'ils auraient pu le faire au chaud? Engoncée dans son blouson, Lucie était frigorifiée et persuadée que Guéguen l'avait fait exprès, histoire de donner une petite leçon à la Parisienne. Elle devinait à peine les coques luisantes des bateaux dans la brume qui roulait depuis le large et venait l'envelopper comme un barbelé. Le Breton la dévisagea. « Je peux savoir pourquoi vous enquêtez sur cette histoire ?» Une corne de brume résonna au loin. « C'est la maison abandonnée qui m'a amené ici. Elle semble reliée à des crimes sur lesquels nous travaillons. Je ne connais rien de son histoire, ni des habitants de cette vieille propriété. C'est pour ça que j'ai besoin de vous. » Il fit glisser la cigarette coincée derrière son oreille jusqu'à ses lèvres et l'alluma, protégeant la flamme de son briquet. L'un des ongles de sa main gauche avait noirci, sans doute à cause d'un mauvais coup. Il désigna de la tête un emplacement occupé par une barque. C'était le Rano. Il possédait un RR-28, un petit voilier de 9 mètres fabriqué en Italie qu'ils avaient appelé Luca. Il était amarré ici la plupart du temps. Lucie revit la peinture du bateau dans le grenier. « Quand vous dites « il » ?»« Les griffons. Le mari, sa femme, leur petit garçon. Ils venaient dans leur résidence secondaire sur la pointe plusieurs fois dans l'année. Ils y restaient au moins un mois complet l'été. Il arrivait souvent que Maggie reste avec leur fils pour peindre, alors que lui retournait à Paris. Marc Griffon était un gynécologue réputé. Lucie était comme une môme découvrant des œufs de Pâques dans un jardin. Marc Griffon, un fils, un gynécologue, l'affaire allait trouver la plupart de ses réponses ici. Lucie en eut la soudaine certitude. « Tout le monde connaît l'histoire de cette famille ici, une histoire maudite. Bon sang, c'est à vous foutre froid dans le dos. À l'époque, il y a eu un tas d'articles dans les journaux du coin. Vous pourriez peut-être les lire. »
« Je veux entendre votre version. »
Un filet de fumée filtra entre ses dents aussi grises que les alentours. Avec le brouillard, l'endroit fichait vraiment les jetons.
« Je suis pas médecin, je sais pas si je vais être capable de bien vous expliquer ça, mais je vais quand même essayer. Quand les Griffons ont acheté la maison, il y a une dizaine d'années, ils avaient un fils âgé de 3 ou 4 ans, Achille. Le père l'adorait, vous auriez vu ça. Ils l'emmenaient en bateau, on les voyait souvent se promener dans les rues tous les deux. Il y avait un manège à chevaux dans le temps et le père regardait son fils tourner pendant des heures. Une petite tête blonde qui souffrait d'une forme rare de leucémie. Un enfer, cette maladie. Le pauvre môme devait subir des traitements lourds. Sans une greffe de moelle osseuse, il n'en aurait que pour quelques années à vivre. Le problème, c'est que le temps filait et qu'aucun donneur compatible n'apparaissait dans les fichiers.
Il avança doucement en direction de la jetée qu'on devinait à peine. Le bout de sa cigarette brillait tel un phare dans la nuit. Chaque taf grésillait.
À force de se battre, de monter des dossiers, et puis sûrement avec sa notoriété, le docteur Griffon a réussi à obtenir les autorisations pour faire venir au monde un bébé médicament. C'est ainsi qu'on l'appelle, bébé médicament. Je trouve ça tellement glauque comme façon de nommer un bambin.
Lucie n'avait jamais entendu parler de ce terme. Plus loin, des ombres circulaient dans le brouillard. La silhouette d'un chien s'évapora au coin d'une rue. La ville tout entière était prise dans un nuage de givre.
Donner vie à un bébé médicament s'était déjà pratiqué une fois en France au tout début 2011. Et le truc existait depuis des années aux États-Unis. C'est pas le genre de machin qu'on peut faire tous les jours. C'est vachement encadré.
En quoi ça consiste?
Je vous raconte ça un peu cash, mais en gros, Maggie s'était fait prélever des ovules que le docteur avait fécondés avec son sperme dans des éprouvettes. Ça a donné plusieurs embryons. Et après, le docteur a sélectionné le bon embryon, celui qui était compatible d'un point de vue immunitaire avec son frère, et l'a réimplanté chez sa femme. C'est comme ça qu'il est né, le frère d'Achille, Hercule, en 2012. Ouais. Le doc, il devait bien aimer la mythologie pour donner à ses gamins des noms de héros. Bref, le pauvre Hercule sortait à peine du ventre de sa mère que le docteur prélevait le sang du cordon ombilical pour le réinjecter chez son frère et ainsi procéder à la greffe de moelle osseuse.
Lucie s'accrochait à ses lèvres. Les points communs avec l'enquête étaient là. La fécondation in vitro, les embryons, les ovules de l'épouse dans des éprouvettes.
Mais il n'y a qu'une partie de tout ça qui a fonctionné. Malgré tous les efforts du doc, Achille faisait des rechutes. Alors, régulièrement, Hercule avait droit à ses 12 travaux. Des prélèvements de moelle pour réinjecter du sang neuf chez son frère. Un nom prédestiné, vous croyez pas? Jusqu'au jour où Achille est mort de sa maladie, branché de partout dans un hôpital parisien. C'était environ 2 ans après la naissance d'Hercule.
Lucie devinait sans mal le drame de cette famille, l'enfer des hôpitaux, le désarroi de Griffon qui, malgré son combat, n'avait pas réussi à sauver son fils, et aussi l'horrible destin des bébés médicaments qui, à l'évidence, n'étaient pas le fruit d'un désir profond de leurs parents et n'existaient que pour permettre à leurs frères ou leurs sœurs de vivre. Des produits fabriqués et consommés.
La femme de ménage habitait à 3 pâtés de maison de chez moi. Elle racontait qu'après ça, c'était compliqué pour la famille. Le docteur faisait un rejet d'Hercule. Il accusait ce pauvre gamin de 2 ans de ne pas avoir été fichu de sauver son frère. Il s'est enfermé encore plus dans le travail. Il ne venait plus souvent sur la pointe. Sur la fin, quand il repartait à Paris, Maggie restait seule avec le petit de longues semaines, enfermée dans leur maison. Elle peignait tout le temps.
Lucie se rappela la touche mélancolique des tableaux. Jamais Maggie n'avait peint un seul de ses enfants, ou alors on s'était débarrassé des toiles. Gegen s'immobilisa au bord de la jetée. Au bout, des vagues fouettaient une barrière en fer, jetant des paquets d'embrun glacés sur leurs visages.
Et comme si cette famille n'avait pas encore assez morflé, il y a eu l'autre drame, moins d'un an après la mort du petit Achille. Notre fichu bon Dieu peut être sacrément cruel parfois.
Il cracha son mégot dans l'eau et l'observa flotter jusqu'à ce qu'une vague l'emporte. Lucie sentait que cette histoire l'affectait en profondeur.
Ça se passe en 2014, par un jour d'automne nuageux avec un léger vent de force 2. Les bulletins météo déconseillent de prendre la mer parce qu'un gros coup de vent est annoncé pour la fin de l'après-midi. Et pourtant, les griffons sortent. Maggie, le docteur et le petit Hercule s'embarquent sur le Luca.
Il pointa l'index, ne désignant que du brouillard.
Toute voile dehors, il double la presqu'île de Panenez, en direction du nord. 4 heures plus tard, c'est la pleine tempête, et la SNSM reçoit un appel de détresse. Le voilier a chaviré et dérive à proximité de l'île Verte, un bout de terre inhabité à quelques milles des côtes. Marc Griffon hurle dans la VHF. Son bateau a heurté un récif, sa femme et son fils sont passés par-dessus bord à cause des vagues. Les sauveteurs envoient immédiatement une vedette de première classe. Faut du costaud, vu les creux de plusieurs mètres. Quand ils arrivent, Marc Griffon flotte dans son gilet à une trentaine de mètres du voilier, à la limite de l'hypothermie. Il saigne à la tête et doit être hospitalisé. Il s'en sortira.
Lucie prit la révélation de plein fouet. Ce Marc Griffon était donc encore vivant. Ce fut comme si, soudain, on pointait un projecteur sur toutes les zones d'ombre de leur enquête.
Deux hélicos tournent jusqu'au soir à la recherche du reste de la famille. Finalement, le gamin est retrouvé mort le lendemain à 1 kilomètre de là.
Gegen reste là, immobile, l'esprit ailleurs. Les vieux souvenirs le faisaient soupirer.
Quant à la mère, il récupère que son gilet. Peut-être qu'elle l'a mal attaché ou qu'elle l'a ôté pour s'y accrocher comme à une bouée. On ne sait pas ce qui peut se passer dans la tête des gens à ces moments-là. Il paraît que quand on ressent un froid extrême, on commence à se déshabiller. C'est le cerveau qui tourne plus bien.
Lucie se positionna à côté de lui, transie, et fixa le néant. Contrairement à ce que pensait le plombier, Maggie n'était pas morte noyée en pleine mer, mais d'un coup à l'arrière du crâne. Son visage avait été défoncé, brûlé à l'acide, et son corps balancé dans un étang à 600 kilomètres de là par le punisseur. La flic sortit son portable et lui montra une photo d'Arnaud de Monchaux. Gegen acquiesça.
Ouais, on le voyait de temps en temps sur la pointe. Un ami du docteur, je crois.
Les liens se dénouaient. Lucie tenta de garder son calme, même si l'envie d'appeler Charcot sur le champ lui brûlait les doigts.
Est-ce que des habitants ont vu les trois griffons embarqués sur le Lucas ce jour-là?
Demanda-t-elle.
Le mari, la femme et l'enfant?
Il haussa les épaules.
Bah, c'est une drôle de question. Ça me paraît logique vu qu'il y a 3 morts.
On n'a récupéré que 2 corps.
Il sembla ne pas comprendre.
Faudrait voir avec les flics qui ont enquêté. En tout cas, les griffons étaient partis tôt.
Un roulement gronda dans sa gorge et il cracha.
Pour finir l'histoire, le doc devenait fou qu'on repêche pas le corps de sa femme. Au bout de quelques semaines, il a fini par clouer des planches sur toutes les issues de sa maison. Comme si cette baraque était maudite et qu'il voulait plus y remettre les pieds. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé. On l'a plus jamais revu ici. La maison n'était pas entretenue et sans surveillance. Forcément, elle s'est dégradée. De la racaille a peint sur ses murs et peut-être même entré dedans. Il y a des irrespectueux partout, même ici. »
Un scénario monstrueux se dessinait dans la tête de Lucie. Maggie, morte dans la maison suite à un coup sur la tête. Accident, meurtre, peu importe. Le médecin doit à tout prix faire disparaître le corps. Il a alors l'idée de la disparition en mer, mais on ne doit pas découvrir le cadavre de Maggie. À l'autopsie, on risque de voir qu'elle n'est pas morte d'hypothermie ou de noyade. Il surveille les bulletins météo, attend la bonne fenêtre, le jour même, quelques jours, pour obtenir ce qu'il cherche, une tempête. En attendant, il appelle de Monchaux pour qu'il se débarrasse du corps de Maggie, loin d'ici. La défiguration est nécessaire. Il ne faut surtout pas qu'on puisse un jour identifier la femme si on la retrouve. Puis, le docteur prend la mer avec le gamin. Personne ne les a vus monter sur le bateau, personne pour certifier si Maggie était là ou pas. Le docteur navigue vers l'île située au large. La tempête fait rage, les vents sont violents, le bateau est en difficulté. Volontairement sans doute, Griffon heurte un récif. Il balance par-dessus bord un gilet qui est censé porter sa femme. Reste le problème du fils, ce bébé médicament, qui n'a pas su sauver Achille. Lucie devait se rendre à l'évidence. Griffon l'avait jeté à l'eau. Il avait sacrifié le petit Hercule pour que son récit soit crédible aux yeux des flics. Qui irait soupçonner un homme ayant déjà perdu un enfant malade et qui vient de voir sa famille anéantie? Un homme repêché dans les vagues, à la limite de l'hypothermie. Un homme qui obstrue les issues de sa maison et la laisse à l'abandon comme pour ancrer le drame à jamais dans les mémoires. Marc Griffon, gynécologue, manipulateur d'embryons, avait, en plus de sa femme, tué son propre fils pour sauver sa peau. Assurément, il était l'un de ceux que Lucie et ses collègues traquaient depuis le début de leur enquête, l'un des ordonnateurs de l'exécution d'Émilie Robin. Ensuite, de Monchaux était revenu sacrifier la traîtresse là où tout avait commencé, comme un symbole. Elle pensa au petit Lucas dans sa pouponnière, à cette histoire de bébé médicament, d'embryon dans des éprouvettes, au fait que Maggie était sa mère et au sang qu'on lui avait prélevé. Marc Griffon était le père de Lucas.